VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 29 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. En Centrafrique, pas de résultats selon l'AFP pour les élections groupées de dimanche avant le 4 janvier. C'est la date retenue pour les résultats provisoires, mais les définitifs ne seront pas connus avant le 18 janvier. Trois longues semaines, un trou noir où tout est possible dans un pays en guerre. Les bulletins des bureaux de vote dispersés à travers un territoire occupé aux deux tiers par des groupes armés doivent être acheminés jusqu'à Bangui pour être comptabilisés et certifiés. Après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, les récalés de la présidentielle et des législatives auront une dizaine de jours pour contester la légalité du scrutin. En l'absence de majorité absolue, un second tour est prévu le 14 février. Les Nigériens également dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle, alors que le dépouillement semble pratiquement terminé dans les bureaux de vote. Lundi soir, la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui compile les chiffres transmis par les bureaux de vote après le scrutin de dimanche, a proclamé à la télévision nationale une série de trois résultats de communes de Maradi dans le sud du Niger. Il faudra attendre probablement mercredi ou jeudi pour avoir le résultat final, a promis un porte-parole de la CENI lundi, évoquant une première tendance pour aujourd'hui mardi. Trois militaires français ont été tués lundi au Mali. D'après la présidence française, le véhicule blindé des soldats a été atteint par un engin explosif improvisé alors qu'ils participaient à une opération dans la région de Hombori. Selon l'Élysée, ils étaient engagés dans une zone où des groupes terroristes attaquent les populations civiles et menacent la stabilité régionale. Le procureur général du Soudan a émis lundi soir des mandats d'arrêt contre plusieurs responsables des forces de soutien rapide, soupçonnés d'avoir enlevé à Khartoum et torturé à mort un civil, une affaire qui avait provoqué une vive indignation. Une procédure a été lancée pour arrêter immédiatement et transférer devant le procureur tous les paramilitaires impliqués afin qu'ils soient poursuivis par la justice. L'armée algérienne a mis la main sur une tranche de la rançon qui, selon elle, aurait été versée pour la libération d'otages au Sahel en octobre dans le cadre d'une opération antiterroriste menée à Djigel dans le nord-est de l'Algérie, a annoncé lundi le ministère de la Défense. Cette opération a pu être menée grâce aux informations obtenues après la capture le 16 décembre dans la même localité à Djigel du terroriste Rezkan Hassen, selon le communiqué du ministère de la Défense. Coronavirus, de nouvelles restrictions en Afrique du Sud, la vente d'alcool est interdite, le port du masque désormais obligatoire partout en Afrique du Sud, a annoncé lundi le président, alors que le pays vient de dépasser le million de cas de contamination au coronavirus. Le couvre-feu est également élargi, débutant à 21h au lieu de 23h, jusqu'à 6h du matin, personne ne sera autorisé à être en dehors de son domicile, sauf les personnels de santé, pendant ces heures de la nuit, a précisé le président Cyril Ramaphosa lors d'un discours télévisé au ton solennel. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants a rejeté lundi à une large majorité le veto du président Donald Trump au budget de la défense, ouvrant la voie à un vote final au Sénat qui pourrait marquer la première fois que le Congrès contourne un veto du 45e président des États-Unis. Plus des deux tiers des parlementaires présents à la Chambre ont voté en faveur de ce budget, en dépit des objections du président, soit la majorité qualifiée nécessaire pour surmonter son veto, 212 démocrates, mais aussi 109 républicains. L'administration Trump ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'équipe chargée de transition en ce qui concerne la sécurité nationale, a déploré lundi le président élu des États-Unis, Joe Biden, parlant donc d'irresponsabilité. L'état-major de Joe Biden avait déjà fait état ce mois-ci d'une coopération insuffisante de la part de certains membres du personnel du Pentagone. Nous sommes le mardi 29 décembre 2020. VOA Afrique Info en ligne de mire dans ce journal. Ouverture d'une enquête au Mali pour atteinte à la sûreté de l'État. République démocratique du Congo, des experts déplorent la mort de 34 civils en deux semaines dans le Kivu. Et pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faut dès maintenant se préparer au pire, à pire du moins, à pire qu'au COVID-19, a dit l'OMS. Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington. Nous vous retrouvons dans un instant pour la suite de ce journal. La suite de nos informations en ce mardi 29 décembre 2020. 34 civils ont été tués en deux semaines dans des incidents survenus dans la région trouble du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un rapport d'experts de la région publié lundi. Le point avec Eddie Sango.
Le baromètre sécuritaire du Kivu, KST, a compté au total 34 civils tués du 29 novembre au 12 décembre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le groupe pointe du doigt les combattants des forces démocratiques alliées ADF. Dans son rapport, il révèle que 19 autres civils ont été enlevés et 3 blessés. Et ces incidents documentés par les KST, 3 ont eu lieu dans les territoires de Beni au Nord Kivu et dans les territoires de Rutshuru. Les KST indiqué des hommes armés non identifiés ont kidnappé 2 femmes et 3 filles. Les ravisseurs ont violé les otages et ont exigé une rançon de 5 000 $ pour leur libération, précise le rapport. Les ADF et les groupes armés le plus meurtrier parmi les dizaines en activité dans les 2 provinces du Kivu. Ces rebelles musulmans à dominance ougandaise installés dans l'est de la RDC depuis 1995 sont accusés d'avoir tué plus de 800 personnes en un an. Depuis avril 2019, plusieurs de leurs attaques ont été revendiquées par les groupes État islamique Afrique centrale auxquels ils ont fait allégeance.
Au Mali, la justice a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État à l'encontre d'une demi-douzaine de personnalités interpellées en début de semaine dernière par les services de renseignement, dont un célèbre animateur radio et le demi-frère d'un ancien premier ministre. Sur les 6 personnes interpellées, seul le secrétaire général de la présidence de la République est en liberté. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Suite à une dénonciation des services de sécurité faisant état d'atteinte à la sûreté de l'État, une enquête préliminaire a été ouverte au niveau du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale, a indiqué dans un communiqué le procureur Mamoudou Kassogué. Il ajoute que les personnes mises en cause ont été mises à la disposition de cette unité pour les besoins de l'enquête. Ces personnes seront présentées au procureur qui pourra décider de les inculper et éventuellement les placer officiellement en détention provisoire. Le communiqué du procureur constitue la première déclaration politique d'un responsable malien depuis la vague d'interpellations lancée le 21 décembre par la Direction générale des services de l'État, DGC. Au moins 7 personnalités ont été interpellées par la sécurité d'État, dont un demi-frère de Boubou Cissé, ancien premier ministre, Agui Boutal, l'activiste et animateur Mohamed Youssouf Bachelidi Rasbach, ou encore le secrétaire général de la présidence de la République, Sékou Traoré, qui a été remis en liberté. Les personnalités interpellées ont reçu le 24 et 27 décembre la visite au camp 1 de la gendarmerie d'une délégation de l'Association malienne des droits de l'homme, de même que leur avocat, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé a prévenu que malgré la sévérité de la pandémie du COVID-19, qui a tué plus de 1,7 million de personnes, il est urgent de se préparer à pire. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Cette pandémie a été très sévère, elle s'est répandue à travers le monde très rapidement et elle a touché chaque recoin de la planète, mais ce n'est pas nécessairement la pire, a mis en garde Michael Ryan, responsable des situations d'urgence à l'OMS. Il a ajouté que même si le virus se transmet facilement et tue des gens, son taux de mortalité est relativement bas par rapport à d'autres maladies. Il nous faut nous préparer à l'avenir à quelque chose qui sera peut-être encore pire, a martelé le médecin Ryan. Son collègue et conseiller auprès de l'OMS, Bruce Aylward, a lui estimé que malgré les exploits scientifiques réalisés dans la lutte contre le COVID-19, y compris la création de vaccins efficaces en un temps record, le monde est loin d'être préparé à combattre des futures pandémies. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tempéré, affirmant, je cite, « en termes de prise de conscience, je pense que nous y sommes ». Mais le patron de l'organisation a souligné que c'est le moment d'être vraiment sérieux, concluant qu'il va falloir plus d'ambition.
Maintenant l'heure de la Minute Éco avec John Lindon.
La Sonatel, Société nationale des télécommunications du Sénégal, va procéder le 16 janvier 2021 au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligatoire dénommé Sonatel 6,50% 2020-2027 pour un montant de 3,250 milliards de francs CFA. Selon Financial Afrique, la Sonatel avait lancé sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un emprunt obligatoire par rappel public à l'épargne pour un montant de 100 milliards de francs CFA en vue de financer son plan d'investissement 2020 lié à ses opérations au Sénégal, le Sénégal qui reste son principal marché. Impacté par la crise sanitaire du coronavirus, le groupe Ati Jari Wafa Bank a finalement décidé d'augmenter son capital social. La première banque marocaine porte désormais son capital social à un montant global de 158,2 millions de dollars. À en croire Financial Afrique, l'augmentation du capital social est réservée aux détenteurs d'actions Ati Jari Wafa Bank. La Chambre des représentants a adopté lundi une mesure visant à augmenter à 2000 dollars au lieu de 600 les chèques d'aide destinés aux Américains dont le revenu annuel ne dépasse pas 99 000 dollars par an. La législation qui a été adoptée avec un vote de 275 voix contre 134 intervient un jour après que Donald Trump a signé dimanche soir un projet de loi de 900 milliards de dollars visant à soutenir l'économie américaine durement frappée par la pandémie du COVID-19.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraou.
Bonjour à tous. La Fédération ivoirienne de football contre-attaque, plongée dans une querelle de succession pour le poste de président. La FIF dit avoir saisi le tribunal arbitral du sport pour contester sa mise sous tutelle par la FIFA. Le comité exécutif de la FIF a pris la décision d'exercer toutes les voies de recours devant le TAS contre cette mise sous tutelle prononcée jeudi dernier par la FIFA, a déclaré la FIF dans un communiqué. L'instance ivoirienne qualifie de fallacieux et impertinent les motifs évoqués par l'instance mondiale du ballon rond après avoir bloqué le processus d'élection en août. Puis auditionner l'ensemble des acteurs en septembre, la FIFA a annoncé sa décision de nommer un comité de normalisation pour gérer les affaires courantes de la FIF, réviser les statuts et son code électoral et organiser l'élection des nouveaux comités exécutifs. En Angleterre, le choc de la 16e journée du championnat entre Everton 2e et Manchester City 6e, prévu hier, a été reporté à quelques heures du coup d'envoi. Après la dernière volée de tests COVID-19, plusieurs cas positifs ont été décelés au sein du club mancunien, en plus des quatre déjà annoncés le jour de Noël, a expliqué Man City. Sans préciser le nombre total de personnes concernées ni leur identité, le duel entre Everton et Man City est la deuxième rencontre du championnat d'Angleterre à être ainsi reportée depuis la reprise du championnat 2019-2020 en juin. Début septembre, le match Newcastle-Aston Villa, comptant pour la 11e journée de Premier League, a été reporté en raison de plusieurs cas de COVID-19 au sein de l'effectif des Magpies. Je n'ai rien décidé, ce sont les mots de Lionel Messi qui souhaitait cet été quitter le club de Barcelone alors que s'ouvre ce week-end le mercato d'hiver. Je ne sais pas encore, au jour d'aujourd'hui, je suis concentré, je ne pense pas à comment la saison va se terminer, a déclaré le septuple Ballon d'Or. Le contrat de la Pulga expire le 30 juillet 2021, le laissant libre de négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier un éventuel départ l'été prochain. Le Barça a connu des débuts difficiles cette saison et pointe seulement à la 5e place de la Liga, à 8 points du leader l'Atlético Madrid. Après 15 journées, Lionel Messi avait fin août dit qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone, mais contraint par son contrat et par le président Josef Maria Bartomeu, qui a depuis démissionné, il a dû rester.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous faisons une rétrospective des grands sujets qui ont dominé l'actualité africaine durant l'année 2020. Nous revisiterons la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les activités économiques, sportives et culturelles. L'actualité politique marquée par le débat sur le troisième mandat dans certains pays, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une série d'élections dans plusieurs pays du continent. Sans oublier le renversement de la majorité parlementaire en RDC. Dites-nous ce qui vous a marqué cette année. Rendez-vous ce jeudi 31 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Tchad, pour faire face à l'insécurité causée par la détention illégale des armes de guerre, une commission mixte de désarmement a été mise sur pied par le gouvernement. La commission a un délai de 2 mois pour sillonner les 23 provinces afin de désarmer de gré ou de force les citoyens détenteurs illégaux d'armes. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Depuis toujours, le gouvernement appelle au désarmement pacifique, invitant les citoyens qui détiennent illégalement d'armes à les restituer. Et donc, cette fois-ci, il entend mener une opération bien musculée. Il ne s'agit pas à la commission de désarmement, mais aussi d'arrêter et faire traduire en justice tous les détenteurs illégaux d'armes, a insisté Kalzebe Paimi Debo, coordonnateur de l'action gouvernementale. Mais l'annonce suscite des réactions de sceptiques tels l'Aldim Narcisse Mbainadi, journaliste et analyste politique.
Par le passé, il y avait eu plusieurs commissions qui ont été mis sur pied pour désarmer certaines populations qui détiennent des armes à feu. Mais on n'a jamais vu le résultat. Donc, c'est pas cette commission-là qui va trouver une solution.
Tout en appréciant les objectifs pour lesquels la commission a été créée, le coordonnateur de Tournant la page, section du Tchad, Bemadjibé Ngarassal Jacques, mesure déjà la tâche qui attend les membres de cette commission.
Même des individus dans les quartiers aujourd'hui détiennent des armes et ils montrent à tout le monde que personne ne pourra arracher leurs armes. Est-ce que cette commission sera aussi en mesure d'arracher une arme à un individu très puissant? Nous, ce que nous attendons de cette commission, il ne faudrait pas qu'une province soit visée au détriment d'autres provinces. Et c'est quelque chose qui ne serait pas facile parce que l'étendue du territoire tchadien n'est pas facile à être désarmé. Pour que la commission puisse atteindre ses objectifs, il faut utiliser aussi d'autres stratégies pour pouvoir l'atteindre. Mais ça ne serait pas une tâche facile pour cette commission.
Kalzebe Paimi Debo, coordonnateur de l'action gouvernementale, précise que le désarmement doit se faire avec impartialité et professionnalisme, dans le respect de la loi en vigueur. Pour éradiquer ce phénomène, il faut s'asseoir avec les acteurs et dialoguer afin de trouver une solution définitive, a déclaré à VOA Afrique Mahamat Ahmad Younous, coordonnateur du réseau national des volontaires au Tchad.
Ce que l'État a fait, c'est une partie. C'est pas ça qui devait régler le problème. Donc, ce que nous proposons comme solution pour pouvoir organiser un forum national. Et à l'issue de ce forum, nous allons trouver les causes et propositions de solutions. Une solution durable. Il n'y a pas un développement sans paix.
Pour l'Aldim Narcisse Mbainadi, journaliste et analyste politique, le vrai problème est ailleurs.
Le gouvernement ne voudrait pas nommer les administrateurs formés. Ceux-là, ils peuvent gérer ce qu'on appelle l'intérêt commun. Mais depuis un certain temps, c'est le clientélisme, c'est le népotisme. Et ces gens ne disposent aucun pedigree administratif pour gérer les gens. Et non seulement ça, mais il y a des responsables militaires qui sont des éleveurs. Et c'est ceux-là qui arment aussi les bouviers. Et ces bouviers-là agissent comme s'ils sont sur un terrain conquis. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités.
La mise en place de cette commission fait suite à l'interpellation du président de la République par les évêques du Tchad dans leur traditionnel message de Noël. Vu l'ampleur de la situation, le prélat invite le président Déby à s'investir avec la même colère de Bouma qui lui a permis d'anéantir les éléments de la secte Boko Haram pour mettre fin à ce phénomène qui endeuille les familles tchadienne. André Kodmajinga N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement entend faire aboutir le processus de réforme foncière. Les organisations de la société civile applaudissent car la dernière grande réforme foncière du pays date de 1974. Plus d'une centaine d'acteurs du foncier viennent de publier leurs propositions pour enrichir la nouvelle réforme. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Le document est intitulé « Note de politique foncière de la société civile ». Il a été présenté aux députés au cours d'une session de dialogue Parlement-Gouvernement. La note contient 8 propositions émanant des chefs traditionnels, des représentants des peuples autochtones, des femmes et des jeunes des 10 régions du pays intéressés par la gestion de la terre.
On propose qu'il y ait des cadres de dialogue au niveau local, au niveau de chaque arrondissement.
Samuel Nguifo a coordonné la rédaction de la note de politique foncière de la société civile.
Des cadres de dialogue qui rassemblent tous les acteurs et qui discutent régulièrement des questions foncières. On saura à ce moment-là, très rapidement, s'il y a quelqu'un qui est en train d'acquérir des droits d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord pourront immédiatement en parler.
Les députés camerounais ont apprécié les propositions de la société civile sur la nouvelle gestion du foncier, visant notamment à rétablir la justice sociale pour les peuples autochtones. Romuald Ngono est juriste et expert foncier. Il a contribué à l'élaboration de propositions sur la réforme foncière.
Il faudrait que les modes de règlement traditionnels, aussi bien des peuples autochtones que pour des autres communautés locales, soient reconnus. Cela a pour avantage d'une administration de la justice par les parties elles-mêmes, mais également de limiter le fort contentieux foncier qu'on retrouve aujourd'hui.
85% de la superficie des terres sont non immatriculées au Cameroun et se trouvent en zone rurale. Sans compensation pour les titulaires des droits coutumiers, ces vastes espaces sont cédés pour des grands projets d'investissement et d'infrastructures. Et
aujourd'hui, nous pensons qu'il faut adopter un moratoire sur la cession des terres à grande échelle.
Michèle Sonkoué, facilitatrice de la stratégie nationale d'engagement au Cameroun, une plateforme pour la gouvernance foncière, centrée sur les personnes démunies et vulnérables.
Nous pensons qu'il faut aborder la question des redevances foncières, revoir comment intégrer davantage les communautés locales dans la gestion même et dans les processus d'attribution des terres.
Pour le gouvernement, la nouvelle réforme foncière vise à faciliter et à protéger les investissements agricoles et industriels au Cameroun. Mais la société civile propose avant toute chose un audit de la propriété foncière. Moïse Mibellom, juriste et coordonnateur d'action pour le développement communautaire.
Est-ce que ces concessions sont toujours dans les surfaces qui leur avaient été attribuées par arrêté présidentiel? Est-ce que ces concessions, ce qu'elles payent, correspondent aux défis de l'heure?
La société civile a également proposé la reconnaissance des droits fonciers des femmes dans le cadre d'un régime coutumier collectif encadré localement, suivant les principes coutumiers. Selon les statistiques du ministère de la Justice, la plupart des affaires traitées devant les tribunaux portent sur le foncier. Emmanuel Junta, Yaoundé, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Au Sénégal, la plage de Bagny, située à 25 km de Dakar, est envahie par les déchets de tout genre depuis de nombreux mois. Pour y remédier, des jeunes engagés autour de l'artiste et activiste Medza ont décidé de nettoyer ce bout de littoral qui est devenu, selon eux, une décharge à ciel ouvert. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Le club de réflexion et d'action citoyenne, c'est l'entité autour de laquelle des jeunes de Bargny et environ se sont retrouvés pour poser des actions citoyennes afin d'améliorer le cadre de vie de cette communauté de pêcheurs. Medundoy, dit Medza, explique les causes de leur engagement.
Le littoral bargnois, c'est devenu une catastrophe. C'était une bombe à ciel ouvert, quoi. Bombe écologique, en quelque sorte. Vous savez, au Sénégal, il y a un problème de gestion des déchets. Bargny aussi subit un manque de criards, aussi de canalisation. Et nous avons accentué dans notre combat, il faut qu'il y ait une canalisation. Au début aussi, vous savez, les femmes n'ont pas où déverser leurs ordures. Et ce qui pose problème, les femmes n'ont pas aussi la culture du triage des ordures. Ça pose problème. Récemment, au niveau de l'association, on a fait une séance de travail avec l'UCG ainsi que la mairie. Mais il faut qu'on insiste à ce que les femmes font le triage des ordures. Et qu'il y ait aussi, la mairie recrute aussi des volontaires qui surveillent ça. Je crois, en premier lieu, ça peut faire l'affaire en quelque sorte.
Pendant 48 heures, des dizaines de jeunes se sont mobilisés pour nettoyer le littoral et assainir le cadre de vie de cette localité composée majoritairement de pêcheurs. Pape Moussa Gueye est un bénévole originaire de la localité. Pour lui, les enfants de Bargny doivent être les premiers sur le terrain, car ce littoral concentre leurs principales ressources.
Chacun de nous doit accomplir des devoirs sans attendre qui que ce soit. C'est pourquoi on a décidé de nous mobiliser. Nous sommes une communauté composée de 70% de pêcheurs et la mer est notre seule source de revenus. Même sans l'aide de l'État, de la mairie ou de bonne volonté, nous devons nous y mettre parce que nous pêchons dans ces eaux. Nos enfants jouent sur cette plage, nos femmes y vendent, donc c'est normal. normal qu'on soit là en tant que jeune Bargnois, en tant que citoyen.
Au sein des populations, de nombreux jeunes se sont certes engagés à soutenir l'initiative, mais il reste énormément à faire. Medundoy Di Medza se désole du manque d'implication des autorités locales.
Parfois, bon, c'est un peu décourageant. Nous faisons des actions citoyennes, du volontariat. Nous sommes juste une association, mais nos compétences sont limitées. Mais je crois qu'il est très important, si nous voulons de l'impact positif, il faut que la mairie accompagne ces initiatives. De temps en temps, nous faisons des collaborations avec UCG et nous lançons des messages dans des quartiers, une campagne de sensibilisation sur le théâtre des ordures. Mais il faut qu'il y ait une mesure d'accompagnement. Mais malheureusement, si nous faisons des actes et que la mairie n'accompagne pas, ça ne va pas aboutir.
Au-delà des activités environnementales marquées par le nettoyage du littoral de Bargny, les jeunes du club de réflexion et d'action citoyenne ont également réfectionné une école de la localité pour un montant de 4 600 000 francs CFA grâce à un financement participatif de 100 francs par habitant.
C'est Lina Bagué à Dakar. 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le nord du Ghana est très peu équipé en infrastructures et les femmes payent un lourd tribut avec des niveaux élevés de pauvreté et peu d'opportunités économiques. Quelques femmes d'affaires de la capitale essaient d'aider en travaillant avec les habitants du Nord pour fabriquer des produits uniques à vendre localement et sur les marchés internationaux. Reportage de Stacy Knott à Accra, le récit est de Thierry Kaori.
Ces entreprises appartenant à des femmes à Accra travaillent avec des organisations à but non lucratif et des femmes du Nord du Ghana pour s'approvisionner en matières premières pour leurs produits, comme le beurre de qualité. Le beurre, extrait de la noix de qualité africain, est un élément de base dans la gamme de produits de beauté naturelle de Violette Amwabeng. Elle dit que l'un de leurs objectifs est d'aider les femmes à maintenir la prochaine génération hors de la pauvreté.
Nous veillons à ce qu'elles soient en mesure d'utiliser les bénéfices ou l'argent qu'elles tirent de nos achats pour améliorer leurs moyens de subsistance en construisant des cliniques, en emmenant les enfants à l'école ou en s'assurant qu'elles ont un boulot.
Mobalika Awoudou soutient les femmes du Nord en achetant leurs tissus faits à la main pour fabriquer des sacs pour les marchés d'Accra. Son père est originaire d'un petit village du Nord. Elle est donc consciente des nombreuses difficultés de la région. Elle dit que l'indépendance économique des femmes est devenue particulièrement importante cette année alors que les revenus se sont amoindris à cause de la pandémie de coronavirus.
Certaines d'entre elles se débrouillent bien. Elles ont commencé par le tissage toutes seules. Maintenant, elles ont des apprentis qu'elles forment aussi, surtout que les écoles sont fermées en ce moment. Beaucoup de filles apprennent à gagner leur vie grâce au tissage.
L'entreprise Trident Tribe apporte une touche moderne à la mode traditionnelle pour encourager les jeunes à apprécier le style africain. Elle s'approvisionne en tissus de toute l'Afrique et travaille avec des femmes du nord du Ghana qui font le tissage. Écoutons la responsable, Awurama Mankata.
Le fait qu'elles soient des femmes mûres heureuses. Pour être honnête, il n'y a pratiquement pas d'hommes tisserands car ils sont dans les fermes. Les femmes y sont aussi, mais le tissage est une affaire de femmes. Être une femme et une femme noire en plus, c'est incroyable.
Alors que le Nord produit des matériaux de qualité, il y a peu d'emplois, ce qui conduit les jeunes à déménager vers le Sud, beaucoup vers des villes déjà surpeuplées. Les experts en affaires du Ghana estiment que davantage d'investissements sont nécessaires dans le Nord pour élargir les perspectives d'emploi et améliorer les conditions de travail. Écoutons Chenalo Via-Boateng du University of Ghana Business School.
En termes de développement, lorsque vous regardez toutes les différentes régions du Ghana, certaines des plus démunies se trouvent dans le Nord. Il est donc juste que, étant donné qu'elles nous donnent tellement de valeur, au moins nous leur rendons un peu pour que la communauté prospère également.
Investir dans la promotion de la femme, disent les experts, c'est l'un des meilleurs moyens de développer les économies locales, une pratique que ces femmes d'affaires d'Accra veulent soutenir.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation, Jean-Roger Billon, mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.